Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et Rémi Barret, nous allons commencer avec le chiffre du jour.
Le chiffre du jour, c'est 6,2%. C'est le taux de grévistes chez les éboueurs à Paris. Si, si, vous avez bien entendu. Alors que les rues parisiennes sont envahies par des montagnes de poubelles depuis plusieurs jours maintenant, du fait de la grève des éboueurs, on a dépassé les 9000 tonnes hein, quand même de poubelles accumulées, il se trouve que seuls 6,2% des agents de la direction de la propreté de l'eau de la ville de Paris, dont dépendent les éboueurs, participent au mouvement social, un chiffre confirmé par la mairie.
6%, quand même, quand on voit les montagnes de poubelles qui s'amoncellent dans Paris, ça paraît très faible, hein, Laurent Nandri.
Mais surtout, je comprends pas très bien comment c'est possible, parce que à la limite.
Bloquent les camions, en fait. Ceux qui sont en grève bloquent les camions.
Oui, mais ceux qui conduisent le camion, ça fait 1 sur 3 quand même. Ça fait
non. Il y a des militants grévistes qui bloquent les camions.
Ah, d'accord.
C'est ce que dit la direction de la
propreté.
C'est ce que dit la direction de la propreté sous couvert d'anonymat.
Et par ailleurs, je crois qu'ils bloquent aussi les centres de retraitement des déchets.
Ça fait que
les camions qui fonctionneraient n'auraient pas de.
Ça a commencé à être débloqué depuis hier par les forces de l'ordre.
Mais là, on est typiquement, pour moi, dans un dévoiement de la grève. C'est-à-dire que c'est une minorité qui oblige la majorité à faire grève et qui paralyse un système qui ne devrait pas être paralysé si la proportionnalité était respectée.
Ça veut dire que les 94% des boueurs qui ne voulaient pas faire grève, ils la font de manière forcée.
Non, pas forcément.
Ils s'arrangent entre eux en fait pour faire une grève.
Pas forcément.
Une grève tournante, en fait.
Comme ça leur coûte moins cher.
Est-ce qu'ils sont payés ou pas? Ah ben
Du coup c'est un peu de l'escroquerie. Ah mais c'est l'escroquerie,
de toute façon les poubelles vont être ramassées.
Les
températures se réchauffent, ça commence à devenir.
Oui, enfin on n'est pas non plus à 30 degrés.
Non mais ça se réchauffe et donc du coup d'un point de vue sanitaire ça devient de plus en plus préoccupant.
Vous avez dit parce que moi je suis pas mal baladé dans Paris et j'ai pas vu un rat.
Ah moi j'en ai vu. Hein.
Je dis pas qu'il y en a pas, mais je n'en ai pas vu.
J'en ai vu beaucoup. Moi,
ouais, bah, s'il est mort.
Bah oui, bah même les rats ne survivent pas. Ne survivent pas au bordel qu'il y a, t'imagines.
L'immortel du jour.
Oui. Là, tu me perds un petit peu. Ah si, 5 ans après sa disparition, c'est lui l'immortel. Johnny Hallyday conserve une place de choix parmi les artistes les plus achetés et les plus écoutés en France en 2022.
Oh, c'est formidable.
Selon les chiffres dévoilés par le syndicat national de l'édition phonographique, il est à la 16e place du classement. Derrière Jules, Nino, Orelsan, PNL, L'Homme Pâle, mais devant Stromae.
C'est une bonne nouvelle, Fred Hermel.
Ah oui, surtout quand on voit ceux qui sont devant.
Oh, bah, tu les connais même.
À part Orelsan, les autres, je ne connais pas.
D'accord, ben voilà, donc comment tu peux juger.
Mais moi, je trouve ça très bien, parce que ce sont très belles chansons. C'est-à-dire que voilà, ce sont des chansons qui ne sont pas des chansons d'un instant, c'est pas des tubes éphémères. Ce sont de vraies belles chansons.
Dans 30 ans, on écoutera Jules et on dira ce ne sont pas les tubes d'un instant.
Oui, enfin, les chansons,
c'est moins sûr.
C'est
moins sûr.
Enfin, quand on voit les gens qui ont écrit pour Johnny, par exemple, l'album écrit par Michel Berger est une pure merveille de la chanson française. C'est dans l'histoire de la chanson française. Donc, moi, je me réjouis. Et ce qui est génial quand on est un artiste, c'est qu'on laisse quelque chose et que Johnny, qui a travaillé avec les plus grands auteurs, les plus grands compositeurs français qui ont fait des magnifiques chansons, c'est normal que ces chansons restent. Et ça prouve que les Français ont encore du bon goût.
Je m'étonne s'il n'y a pas Michel Sardou dans ce classement. Mais enfin, voilà. Vous écoutez encore du Johnny ou pas, Emmanuel Dancourt?
Pas forcément, si ce n'est les chansons faites par Michel Berger, je suis d'accord, ou par Goldman aussi. Mais alors je suis très étonnée par le classement parce qu'on n'a que des rappeurs et pouf, on a Johnny en cinquième position avant Stromae. Il est très étonnant.
Il n'y a que des hommes.
Il n'y a que des hommes. J'ai envie de savoir quelle est la moyenne d'âge de ceux qui ont voté parce que il y a quand même. J'ai fait Jules.
C'est
sur les plateformes d'écoute.
Téléchargement.
Donc déjà, ça exclut à peu près une bonne partie des gens qui ont au-dessus, grosso modo, l'âge de mes parents, quoi. Qui jamais vont aller sur les plateformes d'écoute parce qu'ils écoutent leur vieux disque.
C'est d'autant plus achetés et les plus écoutés.
Ça veut dire que Johnny est écouté par les jeunes. Ça veut dire ça.
Il y a pas mal de trentenaires ou
même plus âgés,
qui se sont mis à écouter la musique sur les applications.
Qu'ont connu Johnny vivant, oui. Ok.
Enfin, non, mais
je trouve très étonnant ce que
46 ans et je suis sur une appli de
téléchargement. La personnalité préférée des Français, c'est Goldman, et ça se retrouve pas dans un classement de disques. C'est étonnant quand même.
Bah écoutez, je ne sais pas. Ça vous étonne ce classement ou pas, Laurent Nondrieux ?
Non, ça m'étonne pas parce que d'abord sa disparition, on n'est quand même pas si vieille qu'il ait disparu des mémoires. Et en plus, c'est vrai que dans un contexte, moi je suis pas très Johnny, hein, je suis plutôt Beatles, mais dans un contexte où il y a quand même une standardisation de la musique, où tout le monde écoute de la musique plus ou moins américanisée, je trouve que c'est rassurant de voir que Johnny incarne la vérité d'une certaine chanson à la française. Voilà.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chanteuse dans ce classement. Clara Luciani, par exemple.
Ouais, la première, je crois, si je ne me trompe pas de mémoire, mais c'est la 24e place et c'est Angèle.
24e place, c'est terrible ce que vous dites.
On sait que les femmes vendent moins que les hommes, on le sait. Dans les concours de chant, ils préfèrent que ce soit un garçon qui gagne plutôt qu'une femme parce qu'ils savent qu'ils vendront plus.
La bonne nouvelle du jour, Rémi.
Malgré l'inflation, les Français fréquentent de plus en plus leurs magasins de proximité, une habitude prise pendant la crise du Covid et qui perdure donc malgré l'inflation, qui redonne de l'attrait aux promotions des hypermarchés. Depuis 2019, les bouchers et primeurs de quartier reconquièrent le cœur des consommateurs. Ces petits commerces de bouche ont connu en l'espace de 3 ans un chiffre d'affaires en hausse de 45%.
Et ça, c'est assez dingue, Fred Hermel, parce qu'on se disait peut-être qu'après le confinement, on va retourner à nos habitudes, c'est-à-dire qu'on va moins faire à manger, on va moins privilégier les bons produits. Surtout que souvent, le boucher de quartier, il est plus cher quand même que le supermarché, mais finalement, on a pris l'habitude du bon goût. Quoi.
Oui, du bon goût. Et moi, je cite souvent l'exemple de mon petit village, où, le village d'à côté, il n'y avait plus de boucher, il n'y avait plus de boulanger, et les petits commerces s'installent à nouveau. Donc parce que les jeunes, donc voilà, parce que on sait très bien que la viande bien coupée, bien conseillée par ton boucher, qui vous dit ce qu'on attend aussi, c'est la valeur ajoutée, le conseil. Moi, mon boucher, je dis, j'ai faim, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui? Voilà, il y a ce côté-là aussi qu'on n'a pas avec une viande sous vide.
Sauf qu'il y a des rayons boucherie dans plein de supermarchés maintenant.
Oui, il y a des rayons. Oui, il y a des bouchers. Mais il y en a même beaucoup. Ça reste quand même sous vide, etc. On parle peu avec un sous vide.
Vous parlez pas avec Charal, c'est sûr. Ouais,
avec Jeanne Charal peut-être, mais pas avec Charal.
Il faut pas oublier de retirer l'antivol en plus.
Oui, c'est des blagues, tu sais, c'est de l'humour. Je trouve ça très bien. Mais de toute façon, on sait très bien que les hypermarchés des années 70-80, les hyper, là, c'est la fin. D'ailleurs, il y a des grands groupes qui ont de gros problèmes financiers à cause de ça. On vise beaucoup plus le petit commerce plus proche. Et moi, je trouve ça très bien. Là aussi, je suis très écologiste. Moi, je suis pour les circuits courts.
Alors moi, je suis complètement dans ce genre de petits commerces, non seulement parce que j'habite dans un village, mais même quand je suis à Dijon, j'essaie de favoriser dans les petites rues adjacentes ces petits commerces-là. Et surtout, ça travaille beaucoup en local. Ça travaille beaucoup en local. Ça travaille. Ils essayent pour au moins la moitié de travailler en bio. Alors bien sûr que les grandes surfaces essayent de travailler en local et en bio aussi. Mais moi, je trouve des produits que je ne trouve pas ailleurs. Tu vois, si tu veux des carottes des sables bio absolument succulentes, jamais je trouve ça.
Chez le boucher, t'en trouveras pas.
Non, mais je parle des primeurs. On parlait des primeurs et du boucher. Ça, c'est... je la trouve pas drôle du tout. On parlait des primeurs.
Oui,
la chef est toujours drôle.
Vous énervez pas.
Je comprends pas parce qu'on parlait des primeurs. Oui. Ça a été dit.
Vous cherchez de la carotte des sables. Bref. Très bien. Et vous en trouvez chez votre primeur. Écoutez, c'est très bien.
Après, d'autant plus une excellente nouvelle que les supermarchés et les hypermarchés sont ceux qui étranglent le plus les producteurs agricoles. Donc voilà, on peut.
Et puis on achète mieux en fait. On achète
moins surtout.
On achète moins.
Oui, c'est vrai.
Bah oui, parce que t'as pas les promos qui sont là et tu regardes et tu te dis, tiens, est-ce que je vais acheter 4 paquets pour le prix de 3? Tu t'achètes juste ce qu'il te faut. L'exportation du jour.
Celle de la SNCF, si. Le Parisien a révélé que la compagnie ferroviaire voulait se développer à l'étranger, en Italie plus précisément. Après avoir traversé les Pyrénées pour s'implanter en Espagne, les trains français vont s'exporter de l'autre côté des Alpes. La compagnie ferroviaire française souhaite importer le modèle Ouigo, son offre low cost sur les lignes à grande vitesse Turin-Milan-Rome, Naples et Turin-Venise avec un nom de code Projet Allegro.
Ça, c'est drôle.
France, on a des idées.
Bon courage aux Italiens. Hein.
D'espionnage. Moi, je trouve ça merveilleux pour le savoir-faire français. Ouais. Mais vraiment, je suis ravi de pouvoir exporter nos grèves à l'étranger. Moi, je trouve ça merveilleux. Bravo. Ça, c'est la France.
J'espère qu'ils vont pas exporter non plus leur système de tarification totalement incompréhensible, parce que franchement, ça, c'est pas une brillante.
Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle.
Mais après, on rigole, parce que
on va essayer de faire des trains à peu près corrects qui roulent à l'heure. Et puis après, on verra si on peut les vendre à l'étranger.
C'est vrai que c'est un peu étonnant qu'on exporte un truc qui passe que la France fait mieux, quoi.
Qui est remboursé, mais qui est financé par l'argent de l'État.
on peut aussi être fier de se dire qu'on va aller faire des bénéfices à l'étranger, etc. Enfin,
tu te doutes bien que ça a fait l'appel d'offres mondial, que ça a été visé, révisé, étudié, machin. C'est nous qui avons été choisir à tondre les cocorico, quoi.
Ouais, moi j'aime beaucoup les Italiens, je leur souhaite pas la SNCF.
Voilà.
Oh, mais la SNCF, ça marche très bien. Enfin, évidemment, des fois, t'as des gens qui volent des câbles, etc. Mais enfin, ils y sont pour rien, la SNCF.
Non,
quand t'as des animaux errants,
la SNCF, ça marche pas très bien. C'est jamais à l'heure.
C'est cher, mais ça marche bien.
Ça coûte une blinde. Il y a un système de tarification incompréhensible.
Bah non,
ça marche pas bien.
L'application marche pas, on comprend rien.
On va parler de la sieste du jour.
Ah bah oui, c'est aujourd'hui la journée du sommeil. Vous saviez, non?
Vous avez bien dormi, Rémi.
Ouais, non, j'en aurais bien besoin. J'en aurais bien besoin, selon une étude de la Sleep Foundation.
Ah, c'est pas
ça existe.
La Sleep avec deux œufs.
Hein, évidemment, on parle de sommeil.
Il n'est pas dans le même panier.
Si un adulte âgé de 18 à 64 ans a besoin de 7 heures ou plus de sommeil par nuit en moyenne pour être au mieux toute la journée, ils ne sont que 63% à ne pas respecter ce temps minimum. Conséquence, 69% des personnes interrogées dans cette étude seraient d'accord pour effectuer de petites siestes durant leur journée de travail, à une condition quand même, que ça ne soit pas pris sur le temps libre. Vous voyez, ça soit compté dans le temps de travail.
D'ailleurs, nous, on a fini notre journée, je vais aller faire la sieste. Tiens. Voilà.